Brett Stewart de l'Université du Nebraska a rappelé que la production est en croissance aux États-Unis et que le marché ne peut plus absorber de nouveaux volumes, du moins tant que les capacités d'abattage n'augmenteront pas. Ken McEwan de l'Université de Guelph brosse un tableau ontarien qui peut avoir des similitudes avec celui du Québec, où nous n'en sommes pas encore à la pleine capacité des abattoirs, mais où les prix aux éleveurs risquent fort de décourager plusieurs d'entre eux. Quant à Vincent Châtelier, de l'Institut national de la recherche agronomique de France, il voit mal qu'en vertu de l'accord Canada-Europe, l'industrie porcine canadienne puisse tout à coup livrer 70 000 tonnes supplémentaires de viande sur les marchés européens. Monsieur Châtelier, les producteurs de porc québécois et canadiens peuvent-ils espérer un marché européen qui leur serait très favorable, très ouvert et avec des livraisons qui se concrétiseraient?
C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident parce que au niveau européen, le marché est relativement stable en consommation et on a des grands opérateurs très concurrentiels qui ont des coûts de production qui sont très avantageux, si bien que les Européens n'attendent rien objectivement du Canada en termes de fourniture du marché intérieur. C'est pas pour autant que le marché est fermé et qu'il n'y aura pas d'exportation accentuée dans le cadre notamment du CETA. Mais il faut être très pondéré. L'Europe, aujourd'hui, a un excédent de production de 3 millions de tonnes. Et exporter 70 000 tonnes supplémentaires, c'est possible. Mais ça sera dilué dans un volume très conséquent. Ce qui est l'enjeu pour le Québec et le Canada, c'est finalement la capacité à vendre des produits qui ne seraient pas réalisés sur le marché européen et qui seraient apporteurs de valeur.
Et est-ce qu'il y en a ?
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut accepter l'idée que les Européens sont aussi très ouverts à la diversité des produits. Et l'Europe, par exemple, est une zone extraordinairement excédentaire en vin. Et pourtant, on achète du vin de Californie, du vin du Chili, du vin d'Afrique du Sud. On n'est pas du tout averse à l'idée d'importer des produits. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs qu'on les achète. C'est aussi parce qu'il y a une identification géographique qui fait que le consommateur, il a le sentiment d'accéder à quelque chose de nouveau. Donc, du jambon québécois sur le marché français, il y aura des Français qui seront intéressés pour un vendredi soir, un samedi soir, de faire état du fait qu'ils sont ouverts à la culture mondiale. Donc, soyons pas fermés. Tout n'est pas qu'une question de coût de production, qu'une question de... C'est aussi l'origine géographique du produit. Et alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que les Européens sont relativement averses à tous les dossiers sur les aspects sanitaires. Sur les aspects hormones, sur les aspects bien-être, et que donc les filières qui sont capables de pénétrer, à la lumière de ce que j'ai entendu d'ailleurs cet après-midi dans les conférences, c'est les filières qui sont véritablement tracées qualité. C'est elles qui auront la capacité à séduire. Sinon les autres, elles seront mises en concurrence avec des groupes dont la puissance est extraordinaire. Nous avons des groupes au Danemark qui font 20 millions de porcs par an abattus. Et évidemment, cette viande-là sera très challengée dès son arrivée dans les ports européens. Donc oui et non, tout dépend de la manière dont les gens veulent entrevoir la création de valeur au travers des produits qu'ils veulent exporter vers l'Europe.
J'ose vous poser la question, l'élection de M. Trump aux États-Unis, ça va venir faire bouger beaucoup de pièces sur l'échiquier commercial, ça?
Faut être très prudent. Moi, je suis de ceux qui attendent à voir les actes. Chacun connaît le fait que M. Trump a une vision assez protectionniste et quelque part qu'il souhaite œuvrer d'abord pour les Américains. Il se trouve que l'Europe a une balance commerciale agroalimentaire importante avec les États-Unis. C'est un très grand client de l'Europe, notamment dans le secteur viticole, plus que dans le secteur des viandes. Et donc les Américains sont traditionnellement relativement ouverts au marché européen. Moi j'attends à voir les actes. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre des grandes déclarations politiques et puis des actes qui vont se traduire par les accords commerciaux. Je crois qu'il faudra aussi être attentif à la manière dont l'administration américaine aura une capacité ou non à faire comprendre à son président, qui a une expérience relative de la question internationale, à faire comprendre à son président que dans l'intérêt des Américains, il convient de ne pas tout mettre à bas et de continuer dans la grande tradition des relations bilatérales et multilatérales qui existent. Donc soyons très pondérés, même si cette semaine, je dirais que la situation actuelle et un peu l'émotion qu'a créée l'arrivée de M. Trump justifie des positionnements qui me paraissent hâtifs. Soyons prudents, les États-Unis restent les États-Unis et il n'y a pas qu'un président qui fait la réalité de l'économie.
Le danger le plus immédiat aux États-Unis, c'est probablement, si on parle du secteur porcin, c'est probablement la surproduction américaine.
Alors ça n'a rien à voir, effectivement, avec les élections récentes. Il est absolument évident que les États-Unis, et on l'a vu dans les conférences, les États-Unis sont dans une dynamique productive importante. En fait, il y a trois zones du monde, l'Europe, les États-Unis et le Canada, qui ont une confiance très forte dans la dynamique de croissance des importations des pays asiatiques. Et peut-être que nous sommes collectivement déraisonnables, l'année prochaine nous le dira, collectivement déraisonnables au sens où la dynamique productive a été très forte. Et elle intervient dans un contexte où il y a plutôt eu une baisse quand même récente du prix des intrants, baisse du prix du pétrole, baisse du prix des intrants, baisse du prix des céréales, et qui est un phénomène qui permet de booster la production de porc, qui est évidemment extraordinairement industrialisé quand on parle des États-Unis, dans un marché intérieur qui est relativement aussi, lui, stagnant. Donc c'est un espoir peut-être trop fort, finalement, dans la capacité qu'auront les Asiatiques à suivre la dynamique productive.
Monsieur Châtelier, merci beaucoup.
Je vous remercie aussi.
De son côté, le président des éleveurs de porc du Québec, David Boissonneau, ne veut pas présumer de ce que fera le nouveau président des États-Unis, Donald Trump.
Bien, vous l'avez bien dit, c'est des énoncés d'intention. Donc, à partir de là, il faut rester calme. On va avoir un premier ministre qui va rentrer en communication avec. Ils vont échanger sur les défis qu'ils ont en commun. Puis ils vont assurément échanger sur la nécessité de continuer des bonnes relations commercial ensemble. Je pense que si on connaît M. Trump comme homme d'affaires, peut-être homme d'affaires un peu différencié, mais quand même, d'apporter des changements dans des politiques ou dans des ententes qui amènent l'instabilité, c'est pas bon pour le commerce, c'est pas bon pour les entreprises, c'est pas bon pour les investissements, ça amène l'instabilité. L'économie reprend. Donc, de ramener l'instabilité en remettant tout en question, je suis pas sûr que ça va être profitable pour les entrepreneurs, les commerces, ceux qui investissent. Donc, je crois qu'il va avoir rapidement des données qui peuvent indiquer tous les dommages que ça peut créer pour son économie. Donc, comme vous l'avez dit au départ, c'était des intentions. Donc, ils vont mesurer les intentions après.
Par ailleurs, le prix du porc a continué de baisser. C'est devenu un peu dramatique, entre guillemets, toujours dans le contexte où bien des éleveurs, sinon l'ensemble des éleveurs, auraient besoin de liquidités pour investir sur les fermes. C'est urgent, là.
Oui, vous l'aviez bien dit. Vous nous connaissez bien aussi, vous connaissez le secteur qui a pris du retard dans les investissements, qui a des équipements désuets, des bâtiments désuets. C'est sûr que la chute brutale du prix présentement, ça ramène l'insécurité. C'est pas une conjoncture qui est favorable pour ramener la sécurité puis l'enthousiasme. Donc, c'est sûr que là, on suit de près les marchés, comment que les développements au niveau de la capacité d'abattage vont prendre forme aux États-Unis. Beaucoup d'annonces qui sont là. Ils vont-tu arriver au rendez-vous pour l'année 2017 pour rétablir les prix, rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande? C'est l'élément là encore qui est en question pour l'année 2017. 2018, là, avec les annonces de capacité d'abattage, on croit que l'équilibre devrait revenir. C'est sûr qu'il y a une augmentation de la production qui est au rendez-vous aussi aux États-Unis, mais il y a quand même des unités d'abattage assez importantes qui sont annoncées, là, qui s'en viennent.
Mais tout ça ne donne pas nécessairement les liquidités suffisantes pour investir. Vous souhaitez un programme gouvernemental?
Absolument. Les liquidités, bien, c'est par le marché, en premier lieu, qu'on désirerait les avoir. Lorsque le marché n'est pas là, il y a les programmes de sécurité du revenu qui interviennent. En 2016, ils vont intervenir. Il y a une première avance qui a été faite. Bon, pour entreprendre le défi puis le chantier de remise à niveau des investissements dans nos infrastructures, c'est assurément avec la remise à flot de nos liquidités. Puis ça va être avec un coup de pouce au niveau des investissements, au niveau de programmes ou de soutien en financement pour faire les investissements sur nos entreprises. Ça va être des combinaisons de trois éléments, le marché, perspective de marché qui sont là, mais que là, présentement, on vit une conjoncture à court terme qui est pas favorable. Une certaine stabilité dans les programmes de sécurité du revenu, puis un coup de pouce au niveau des programmes d'investissement là, pour donner le coup de pouce qu'on a besoin là, pour que les entrepreneurs prennent là, les devants là, dans les investissements à faire.
Depuis un an, le prix du porc a baissé de quel pourcentage?
En pourcentage, c'est assez majeur. Là. En début d'année, on était rentable. On avait plus que notre coût de production. Le marché était là. Puis là, on est rendu complètement déficitaire. On doit perdre près de plus de 30 $ par porc. Donc, on doit être descendu de 50 $ par porc là, dans 3 mois.
Ce qui veut dire facilement 30-40 % de baisse de prix là,
oui,
au producteur.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
Les prix atteints il y a 2 ans n'ont pas duré assez longtemps pour assurer des liquidités suffisantes à l'amorce d'un véritable renouvellement du parc de bâtiments d'élevage porcin. La conjoncture actuelle n'augure rien de bon, au moins pour la prochaine année, probablement davantage. Et avec l'incertitude aux États-Unis, avec une ouverture européenne qui pourrait ne pas se réaliser, les producteurs espèrent, outre l'assurance stabilisation de leurs revenus, que les gouvernements créent un programme d'investissement en infrastructures qui leur permettrait au moins de gagner quelques points en efficacité et productivité. Ici Lionel Levac, à bientôt.